parole du jour avec le Père Willem.
Agir au sein de la violence. Dans l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 1 à 12. Quand ils sont proches de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers. Nous sommes sur le point d'entrée dans la ville. Dans sa troisième annonce de la Passion, Jésus avait clairement laissé entendre que Jérusalem allait être le théâtre de cet événement. Nous y voici. Jésus s'avance avec détermination dans le lieu de la violence, suivi de ses disciples décidés à le suivre malgré les menaces. Avec eux, nous allons découvrir Jésus qui affronte cette violence d'une manière résolument non violente. C'est avec surprise et émerveillement que nous avons repéré un parallèle entre la façon de faire de Jésus il y a 2000 ans et les différents moments de l'action directe non violente telle qu'identifiée et définie au cours du XXe siècle. Rappelons que la violence que Jésus combat est la vision d'un être, d'un Dieu lointain. Cette distance entre Dieu et l'homme, dont découlent toutes les violences entre les hommes. Il n'a eu de cesse de nous faire expérimenter que nous sommes les fils et les filles aimés et choisis de Dieu. Mais nous l'oublions et nous nous comportons comme si nous étions des orphelins menacés par le monde et les autres, n'ayant qu'une seule crainte, que notre droit d'exister nous soit refusé. Alors nous défendons bec et ongles notre territoire ou contre-attaquons le territoire de l'autre. Et nous oublions que nous avons un Père qui nous dit « Tu as de la valeur à mes yeux et l'autre en face de toi. Il est ton frère, il a aussi du prix à mes yeux. » Ainsi, en observant Jésus tout au long de l'évangile de Marc, nous retrouvons les moments de toute action directe non violente. Le dialogue est l'arme la plus légère de la non-violence. Le non-violent ne la quitte jamais. Il est toujours prêt à dialoguer. Si on lui refuse le dialogue, alors il le provoque et le dialogue doit être mené avec endurance. En cas d'échec, il sera toujours, toujours repris inlassablement. Quand le dialogue échoue, quand la négociation est bloquée, l'action directe transpose le dialogue du domaine privé au domaine public. Son but est de forcer le dialogue. Il cherche, d'une part, à dénoncer publiquement l'injustice, à conscientiser l'opinion publique et à obtenir une solidarité croissante dans le peuple. D'autre part, il exerce une pression morale et politique progressive sur les groupes responsables en mettant la violence en évidence. Jésus n'arrête pas d'avoir recours à ces deux types d'actions tout au long des nombreuses rencontres qu'il fait, quel que soit son ou ses interlocuteurs. Quand tous les efforts de dialogue ont échoué, quand l'attente semble faire empirer la situation, quand la seule alternative est de perpétuer un état des choses intolérable, il devient alors nécessaire de passer aux armes lourdes de la non-violence, action directe, de non-coopération, désobéissance civile ou d'intervention. Dans les deux cas, il s'agit d'une confrontation directe dans le camp de l'adversaire, dans le lieu de la violence. Alors, l'affrontement devient inévitable. Ceux qui s'y engagent doivent en connaître toutes les conséquences et être prêts à les assumer. C'est particulièrement ce que Jésus va mettre en œuvre lors de son entrée à Jérusalem, où il va à la rencontre des structures violentes de la société de son temps. À l'approche de Jérusalem, Jésus envoie deux de ses disciples comme quand il les envoie en mission. Il leur demande d'aller chercher un ânon que personne au monde n'a encore monté. Il y a là vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose pour la première fois, quelque chose aussi de surnaturel qui dépasse les lois connues de la nature. Normalement, un ânon que personne n'a encore monté doit être dressé. Et l'évocation de cet ânon fait allusion à l'oracle de Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon tout jeune. Il supprimera d'Éphraïm le char de guerre et de Jérusalem le char de combat. » Cette prophétie évoque l'identité royale de celui qui monte l'ânon. Ainsi, Jésus, qui jusque-là insistait pour conserver le secret messianique, décide de révéler au grand jour cette part royale qui est en lui. Pour le Christ qui d'habitude marche à pied sur les routes, le contraste est grand. Le moment semble venu de révéler son identité. C'est-à-dire, c'est un roi humble et juste, monté sur un âne, nous dit Zacharie. Un roi qui apporte paix et non-violence pour les nations. Rien à voir avec un roi guerrier. Jésus paraît exercer une autorité souveraine sur les événements. Tout semble lui obéir. Tout se passe exactement comme il l'avait dit aux deux disciples. Il en résulte une grande paix et une étrange gravité, comme si toute la création retenait son souffle. Ils conduisent l'ânon à Jésus, ils jettent sur lui leur manteau, ils s'assoient sur l'ânon. Le manteau est un vêtement symbolique très important. Il signifie l'identité, le statut de la personne. Et les disciples vont jeter sur cet ânon tout leur être, tout ce qu'ils sont en cet instant. Ils sont donc enthousiastes. Ils le clament. Et les disciples entraînent la foule à acclamer Jésus comme un roi. Cette fois, ils n'entrent pas de façon directe dans Jérusalem. Ils osent proclamer avec force et tintamarre la bonne nouvelle qu'ils ont expérimentée. Nous assistons ici à la réalisation de cette prophétie de Zacharie. La mention de ceux qui précèdent et ceux qui suivent donne l'impression d'une grande foule, d'un long cortège. Mais ce précéder et suivre rappelle aussi la nuée au désert, révélant la présence de Dieu qui précède et suit le peuple hébreu, le protégeant et l'éclairant sur le chemin. Jésus semble en sécurité au milieu de ce peuple qui l'acclame. Il se laisse accueillir comme celui qui vient au nom du Seigneur. Il laisse l'enthousiasme s'exprimer. Et il promet aussi l'éveil par ce cri. Ce cri des disciples et du peuple. Hosanna. Ce mot vient d'une racine hébraïque qui veut dire « Donne le salut, s'il te plaît !» Et en cet instant, ils désirent de tout leur être recevoir le salut et être sauvés. Était-ce leur façon de fuir leur angoisse, de se rassurer, de se donner du courage? Pourtant, leurs moyens très limités, de se rassurer, de se donner du courage, pourtant leurs moyens sont pauvres. Un ânon qui n'est même pas à eux. Ils ont dû l'emprunter. Des vêtements, des branchantes. C'est un peu ridicule d'ailleurs. Imaginez un seul instant la scène. s'il s'agissait de l'entrée d'un empereur romain. Alors, où est la gloire de Dieu? Osons-nous la voir là où elle se fait voir? Il nous faut reconnaître cette gloire de Dieu manifestée en Jésus, montée sur un ânon, tout comme celle qu'il manifestera sur la croix. Nous avons tous les uns les autres à devenir des voyants de Dieu, des voyants Dieu et des voyants de Dieu, si nous souhaitons avec lui traverser les violences sans être anéantis.